chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous présenter ce débat, pour discuter avec vous. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire s'apprête à présenter sa première promotion de 830 étudiants en licence 3 issus de cet établissement public créé en 2015 pour désengorger le système universitaire et remédier aux grèves qui le secouent. D'autres pays tels que le Sénégal depuis 2013, qui dispose de 12 espaces numériques et souhaite en créer dans chaque département, ainsi que le Burkina Faso qui propose dans sa nouvelle université virtuelle un premier cours notamment de cybersécurité. Alors on a le Tchad, le Gabon, le Cameroun, entre autres pays qui se sont également lancés dans l'aventure de l'enseignement supérieur en ligne. Que pensez-vous de ces initiatives? Quels sont les avantages et inconvénients de l'enseignement en ligne et quel avenir pour l'e-learning en Afrique et ailleurs? Donc, quel genre d'avenir pensez-vous pour cette manière d'apprendre, l'apprentissage à distance, l'apprentissage en ligne? Alors, pour le cas de la la Côte d'Ivoire, c'est l'UVCI, l'universitaire de Côte d'Ivoire. Alors, le responsable de cet établissement, le directeur général Thiemonane Koné, qui avait dit que l'UVCI était le levier sur lequel le gouvernement s'appuie pour développer l'utilisation des TIC et pour récupérer plus d'étudiants sans diminuer la qualité. Alors il vantait notamment le fait que les étudiants sont formés pour le marché de l'emploi et capables de créer des entreprises numériques. C'est une université spécialisée dans l'éthique. Alors il dit la qualité de l'enseignement est assurée par des tuteurs qui suivent des groupes d'étudiants en ligne. Et alors il y avait la directrice de la communication du ministère de l'enseignement supérieur, Oumou Dosso, qui avait reconnu que au début c'était assez difficile, le modèle pédagogique d'enseignement en ligne était rejeté, comme on a l'habitude de rejeter ce qui est nouveau, c'est un réflexe assez humain en somme. Et donc aujourd'hui on a environ 6000 étudiants qui suivent des cours régulièrement depuis 3 ans dans cette université et 2500 frappent chaque année à la porte de l'université virtuelle. À savoir qu'en Côte d'Ivoire, le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est de plus de 35 millions, mais le nombre d'abonnés à Internet est de 15 millions. C'est ce chiffre-là qui nous intéresse, parce que l'université en ligne ne peut pas se passer de connexion. On a plusieurs cas. On va parler du cas du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad. On a aussi la fameuse université virtuelle africaine dont le siège social est au Kenya. Et il y a le Togo aussi. Et voilà, on a probablement un auditeur en ligne. On a Aruna Baldé en ligne au Sénégal. Bonsoir, comment ça va?
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les étudiants de la VOA Afrique.
On vous écoute Aruna.
Voilà, par rapport au thème du jour, par rapport à l'enseignement en ligne, moi je dirais d'abord en ce qui concerne mon pays, il faudra d'abord se poser des questions pour est-ce que les conditions sont réunies pour vraiment adopter à ce système d'enseignement à distance en quelque sorte. Parce que véritablement ici, il y a un sérieux problème. On a mis en place l'université virtuelle depuis 2013, l'année d'obtention de moi-même, mon baccalauréat. Et moi, heureusement, j'ai été orienté dans l'université de Dakar. J'ai beaucoup de camarades qui ont été orientés dans l'université virtuelle, mais d'après ce qu'ils disent, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de suivi. Parce que aujourd'hui, comme on l'expliquait dans l'époque, mais il y a des étudiants aujourd'hui, ils ont besoin vraiment de voir le professeur en quelque sorte pour comprendre les leçons. Mais imaginons des étudiants qui sont dans les régions lointaines, on dit que tu vas suivre les cours en ligne. La ligne de Wi-Fi n'est pas vraiment, le réseau de Wi-Fi n'est pas très très de bonne qualité en quelque sorte. De deux, il y a ce qu'on appelle la part de l'étudiant de suivre les cours en ligne. Et si l'étudiant n'est pas doté de machine, c'est-à-dire d'ordinateur pour vraiment suivre ces cours-là, c'est déjà un problème en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, avant d'adapter l'université virtuelle, il faudra mettre les moyens techniques en quelque sorte, c'est-à-dire installer les réseaux Wi-Fi, donner aux étudiants qui sont orientés dans ces universités-là des ordinateurs vraiment qui sont capables de répondre à cette. Parce que quand tu n'as pas une bonne machine qui a une autonomie, voilà, tu ne peux pas suivre correctement les cours. Bon, avec aussi l'Internet, d'autres vraiment sont emportés.
Mais
par
alors attendez, Aruna, j'essaie de comprendre parce que moi, les documents que j'ai disent que l'UVS donc, dispose d'un réseau d'espaces numériques ouverts, provisoirement au nombre de 12 et dans les différentes localités du Sénégal. Bon, et il prévoit donc dans tous les départements. Alors, est-ce que les étudiants n'ont pas accès à ces centres-là?
Bon, exactement, il y a l'accès à l'Internet, mais la connexion, elle n'est pas de bonne qualité, c'est ce qui pose problème. Bon, comme je l'ai dit, imaginez des étudiants qui sont dans les régions très reculées du Sénégal, et je pense aujourd'hui aussi, c'est ce que je vous disais, il y a l'électricité en quelque sorte qui va assurer vraiment le fonctionnement de leur ordinateur. C'est tout à fait un problème, et je pense aujourd'hui, parce que moi, d'après le témoignage que je suis en train de vraiment d'argumenter, mon idée en quelque sorte, parce qu'ils disent que voilà, il n'y a pas de sérieux là-bas, parce que ils ont besoin des documents physiques en quelque sorte. Mais si aujourd'hui on mettait en place vraiment un réseau d'Internet vraiment fiable aujourd'hui, et vraiment que les assistants en ligne, en cours de ligne vraiment étaient pragmatiques en quelque sorte, aujourd'hui il y aurait une bénéfice, parce que ça allait diminuer aujourd'hui le boom qui est dans les universités publiques de l'enseignement physique en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui les universités du Sénégal sont pléthoriques, mais on allait vraiment encourager aux étudiants vraiment de suivre les cours.
Merci beaucoup, Aruna.
Malheureusement, il n'y a pas de sérieux. C'est ce que disent les...
Un grand merci, Aruna. On a Trésor Kazadi qui est à Mujimaï, en République démocratique du Congo. Bonsoir, Trésor. On vous écoute. Trésor, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous attendais. C'est moi, Trésor Kazadi, au Yali de Mujimaï. Allô?
À vous la parole. On vous écoute.
Ok, j'ai dit ceci. Cette initiative est bonne, mais il faut que les responsables de ce dossier qu'ils peuvent faire un moyen essentiel par lequel nous pouvons trouver une solution agréable. Parce que il y a les autres qui peuvent lancer comme ça et quand même par après vous verrez que cette situation ne va pas prendre leur responsabilité. Alors, je les invite à être capable à faire et réaliser. Parce que moi, je suis d'accord avec cette nouvelle décision qui vient passer dans le monde de notre continent d'Afrique. Alors?
Merci beaucoup, Trésor. Un grand merci, Trésor, qui pointe notamment le problème de matériel également. On a Adama Togola qui est au Mali. Adama, bonsoir. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors, on vous écoute. Alors, vous êtes d'accord avec l'enseignement en ligne et vous avez justement eu l'occasion d'y participer.
Effectivement, je salue d'abord tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Voix de l'Amérique. Je suis d'accord avec l'enseignement en ligne. J'ai même participé à un MOOC à l'Université de Laval du Canada en 2016 avec succès. Mais le problème en Afrique, surtout au Mali en l'occurrence, rares sont les étudiants et des enseignants qui sont en marge avec ces outils. Le débit de l'Internet marche à pas de caméléon et ça coûte très cher. L'ensemble du territoire n'est pas couvert par le réseau de communication, à plus forte raison que la connexion. Mais la plupart aussi des élèves viennent de la brousse et ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies de l'information. Même l'inscription en ligne a été un échec au Mali. Je dis bien l'inscription en ligne. Je félicite ceux qui ont mis en place cette initiative chez eux car les avantages sont énormes. Le problème d'apprentissage même, le problème d'espace d'apprentissage même se pose. Mais tout compte fait, nous le souhaitons dans ce monde planétaire aujourd'hui. Nous le souhaitons pour éviter les impacts de grève des enseignants et l'indisponibilité aussi de certains étudiants par faute de moyens de logement dans les capitales. Donc, et le problème aussi d'évaluation, de l'évaluation aussi des étudiants aussi se pose. Mais tout compte fait quand même, l'initiative est très bonne, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous sommes impatients. Donc, de voir vraiment cette nouvelle mesure d'apprentissage aussi chez nous, au Mali. Donc, nous le sentons impatiemment même chez nous. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup, la Voix de l'Amérique. Je vous remercie.
Un grand merci, Adama. Un grand merci pour votre témoignage. Adama Togola, qui est au Mali et qui a suivi justement des MOOC. Alors, je voudrais quand même expliquer ce que c'est que les MOOC. Hein. C'est des cours en ligne avec participation illimitée et un accès ouvert via le web. Alors, outre les supports de cours traditionnels, de nombreux MOOC proposent des cours interactifs avec des forums d'utilisateurs pour faciliter les interactions entre étudiants, professeurs, assistants pédagogiques, ainsi qu'un retour immédiat au questionnaire rapide. Alors, ils ont été introduits en 2006 et sont devenus un mode d'apprentissage populaire en 2012. Donc, on voit que ça prend vraiment très peu de temps pour devenir populaire. Alors, les premiers MOOC permettaient notamment, et c'est ce qui est intéressant, l'octroi de licences ouvertes pour le contenu, la structure et les objectifs d'apprentissage. Et ça permettait de réutiliser et de remixer les ressources. Alors, certains MOOC utilisent notamment des licences fermées pour leur support de cours, mais maintiennent un accès gratuit pour les étudiants. On a Zakaria Bouraïma qui est en ligne en Côte d'Ivoire à Bengourou. Bonsoir Zakaria. Vous êtes plutôt pessimiste sur les cours en ligne. On vous écoute.
Oui, bonsoir madame. Je suis un Togolais. Je réside en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de vous joindre sur votre antenne. Et je suis un Togolais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a eu à faire ce débat à la Radio Côte d'Ivoire. Je suis un fidèle auditeur de la Radio Côte d'Ivoire. On a eu à faire ce débat parce que si vous voyez que la Côte d'Ivoire est le pauvre pays qui veut qu'il y a les cours en ligne, puisqu'il y a beaucoup de problèmes en matière de crise. Donc, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est le pays qui souhaite que cela soit. Mais moi, raison pour laquelle, pourquoi je suis pessimiste. Et vous voyez qu'il y a un adage qui dit, comme je le disais sur mon commentaire, il y a un adage qui dit que la technologie avance et la science diminue. Est-ce que moi, c'est raison pour laquelle je suis un peu pessimiste? Vous voyez, et puis il y a une autre part de raison aussi. Il faut dire qu'il y aura un problème de connexion Internet. Et s'il y a un problème, comment que les cours seront fiables? Donc, voici la raison pour laquelle je suis un peu pessimiste.
Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, Zakaria, pour votre commentaire. Et l'on peut penser effectivement que plus ce type de cours se développerait, plus l'on pourrait peut-être faire des efforts, notamment en matière de couverture Internet et d'accès à l'Internet d'une manière générale. On a l'université virtuelle du Tchad qui propose 3 masters pour l'instant. Audit et contrôle de gestion, analyse et évaluation des projets, gestion des ressources humaines. Voilà, sorte de spécialisation. Et on a également l'Université virtuelle nationale de Yaoundé, qui est plutôt, alors à Yaoundé, au Cameroun, sont plutôt des universités numériques. Une petite différence entre l'université virtuelle et l'université numérique. L'université numérique, elle propose en fait de travailler au sein même des universités avec plus de moyens numériques. On a quelqu'un au chat, c'est Jim Rangar. Bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir, madame, bonsoir à tous nos fidèles auditeurs.
À vous la parole.
Moi, je pense que la technologie avance à un grand pas. Donc, c'est normal aussi que l'enseignement supérieur s'adapte. Donc, je pense que la seule conséquence ou le seul problème aussi est que ces formations allient à un coût très cher. C'est ce qui ne permet pas à beaucoup de gens de suivre cette formation. Donc, si les gouvernements ou les sociétés de l'Afrique du Nord doivent essayer de réduire ou de trouver des consensus pour permettre à tous ceux qui ont la volonté ou le désir de suivre cette formation, parce qu'on sait que vu la situation économique, beaucoup de gens sont limités. Pourtant, il y a tous les jeunes maintenant. Ont vraiment la volonté de suivre des formations en ligne, mais on est limité par les moyens. Donc, je vois qu'il n'y a pas trop d'inconvénients. C'est l'inconvénient, c'est sur le côté financier. Donc, vraiment, moi, je pense que la technologie évolue. Donc, on doit suivre aussi cette évolution pour nous inscrire, pour avoir acquis des connaissances.
Merci beaucoup, Jim Rangard, à partir du Tchad. Je récapitule ce que Jim Rangard a dit. Il pense que la technologie gagne du terrain, donc c'est normal que l'enseignement suive aussi le pas de la technologie, dit-il. Et il pense quand même que les cours en ligne sont une bonne chose, mais trop cher. On a Ben Benoît Kabeille, qui est à Kinshasa, en RDC. Lui, il est plutôt sceptique sur cette formule, la formule de l'université virtuelle. Ben Benoît, bonsoir, on vous écoute. Ouh là là. Non, on ne peut pas garder une telle ligne, je suis désolée. Alors je vais le citer, il a écrit sur notre Facebook, il faut être sérieux dans cette initiative et anticiper des risques dans cette aventure de l'enseignement en ligne. Il pense notamment au cas d'échec et il avait une question à poser, qu'est-ce que prévoit le gouvernement en cas d'échec de ce type d'université? Et donc il souhaite une bonne chance dans l'aventure des universités virtuelles. On a Baudelaire, on a Daniel Kassongo qui est en RDC également, qui pense lui que c'est une très bonne initiative et qui permet à quelqu'un de poursuivre ses études sans difficulté, dit-il. Quant à Baudelaire qui est au Bénin, il pense aussi que c'est une très belle initiative, d'autant plus, dit-il, que chaque année le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter, laissant les universités dans un surpeuplement indescriptible. Alors il pense peut-être de problème que les étudiants pourraient rencontrer pour les compositions notamment. Alors il dit que c'est développé en Occident, mais il pose une question en disant, avons-nous déjà un système rigide pour l'obtention des résultats escomptés? Et Guy Allelbey, lui, il pense également que c'est une bonne initiative, mais au Tchad, dit-il, nous avons une connexion qui coûte extrêmement cher avec un débit lent qui ne permet pas du tout de bien télécharger les cours et les lire. On a Lambert Chileux qui est en RDC, à Mbujimayi. Il pense également que c'est une bonne initiative qui devrait être beaucoup plus développée et imitée partout en Afrique. On a un auditeur à Bamako. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
On vous écoute.
Ok, au fait, l'université virtuelle, le problème qu'il y a, en tout cas, je trouve que c'est intéressant, mais il y a des failles qui sont là, puisque ici, l'Afrique, il faut s'adapter. Par exemple, je connais un de mes collègues là, un jeune dont on faisait partie de la même église, voilà, il m'a parlé qu'il devrait, voilà, suivre des cours sur, voilà, les sciences politiques. Maintenant, Là, il n'avait pas comment s'insérer, c'était difficile pour lui. Je vois, d'abord, il faut qu'on essaye de parler de petit à petit et que les jeunes ils s'habituent. Mais sinon, une fois, comme ça, brusquement, comme ça, il n'a même pas d'ordi, il faut que le gouvernement l'offre un ordi. Là, c'est compliqué, quoi. Et c'est ça le problème de l'Afrique.
Un grand merci pour votre témoignage, votre point de vue sur cette question. On a la réflexion de Justin Philippe qui est au Togo. Alors il pose une question, il dit, est-ce que cette éducation serait de bonne qualité? Peut-on bien suivre l'étudiant pour qu'il produise de bons résultats? Bien sûr, ça peut permettre d'avoir des diplômes étrangers, dit-il. Et il y a Davy Akumbu qui pense que le monde évolue, l'enseignement en ligne est une bonne chose, dit-il. Et il parle notamment des grèves à répétition. On a quelqu'un en RDC? Nectar Alliance.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, vous pensez que ce sont de très bonnes initiatives et vous dites même que l'enseignement en ligne est moins coûteux.
Oui, ce que je soutiens, c'est une très bonne chose. Vous savez, lorsque vous suivez un enseignement en ligne, Vous avez en même temps la possibilité de faire ce dont vous avez besoin, vous pouvez travailler, faire autre chose, et en même temps, vous suivez les enseignants en ligne. Vous pouvez aussi facilement décider du temps à mettre en jeu pour étudier. Vous pouvez, par exemple, le matin aller au travail, la nuit étudier. C'est ça aussi ce que j'ai jugé. Donc, c'est une très bonne chose. En dehors de ça, ça présente aussi des avantages. Vous savez que vous étudiez tout seul, vous êtes concentré, vous n'êtes pas distrait par qui que ce soit. Donc, ça donne plus de concentration et on travaille dans la sérénité. Mais le désavantage, c'est que lorsque vous travaillez dans de telles conditions, vous n'allez pas vous socialiser avec le reste du monde. Donc, vous resterez isolé. Donc, autour de vous-même, vous n'aurez pas l'habitude d'être en interaction avec les autres individus. Donc, c'est ça au moins le désavantage. Mais c'est très bon.
Merci beaucoup, Nectar Alliance. On a Lenka Eratus qui est à N'Djamena. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Lenka Eratus.
Oui, je vous écoute.
À vous la parole.
Oui, c'est comme j'avais trouvé le thème énuméré, je trouve que c'est vraiment une bonne idée appréciable et louable. Si cela peut, n'est-ce pas, arriver dans notre pays, le Tchad, c'est vraiment, nous sommes tellement isolés que les Tchadiens n'arrivent même pas à poursuivre leurs études. À tout temps, nous sommes menacés par la grève. Tant de diplômés, les bacheliers sont là, pêle-mêle, ils n'arrivent même pas à être recrutés à l'université. Donc, il a fallu que, voilà, qu'ils passent leur année blanche. Si cela arrive dans notre pays, moi-même, je suis bachelier, je préférais embrasser à main ouverte.
Un grand merci, Lenka Eratus. Je voudrais citer Raymond Louchima. Raymond Louchima, qui est en RDC. Alors, il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, l'enseignement à distance constitue à ce jour une des caractéristiques du modernisme qui a fait du monde un village planétaire. Ses avantages sont, énumère-t-il, le désengorgement des auditoires surpeuplés, économie de temps pour les enseignants. Un prof peut enseigner des étudiants évoluant dans des institutions et lieux différents. Contournement de la distance, cela facilite l'enseignement même aux coins les plus reculés, dit-il. Économie des frais de voyage, le prof peut enseigner sans avoir besoin de voyager, idem pour l'étudiant. Uniformisation de la formation, dit-il. Et pour inconvénient, il cite notamment les difficultés dans l'évaluation pratique. Plusieurs auditeurs l'ont mentionné, comme nous l'avons entendu. Il parle aussi de risque de cyber-arnaque et de cybercriminalité. Et il dit les pays qui se sont lancés méritent un coup de chapeau et quittent aux autres d'emboîter le pas. Il est donc, c'est Raymond, il est à Wembonyama, dans le Sankuru, en RDC. On a un autre auditeur en ligne. Alors on a notamment le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, l'université virtuelle africaine fait un partenariat avec la Banque africaine de développement. Alors 21 pays normalement se sont lancés là-dedans et on a 9 pays d'Afrique francophone, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Et l'élargissement devrait renforcer la capacité des universités existantes. Alors, l'e-learning, c'est comme ça qu'on l'appelle, aidera également les universités à générer une base de revenus à long terme et durable. Et c'est donc l'Université virtuelle africaine, c'est une organisation intergouvernementale panafricaine ayant pour mandat d'accroître sensiblement l'accès à l'enseignement supérieur de qualité et à la formation par le biais de l'utilisation novatrice des. Et l'UVA a été créé en 1997, alors que l'e-learning était encore assez balbutiement dans l'Ouest et a formé donc 43 000 étudiants. Son siège est à Nairobi avec un bureau régional à Dakar. On prend un dernier auditeur avant la fin. Archiduc Théodore, bonsoir, à vous la parole. Allez-y rapidement, vous êtes le dernier.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir. On vous écoute, Archiduc Théodore. À vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? C'est bien dommage. Profitez de ces quelques secondes, elles sont précieuses, c'est les dernières. Oh, quel dommage. Archiduc Théodore a écrit sur notre Facebook « L'enseignement en ligne permet à quiconque de s'organiser et de travailler à son rythme ». Voilà pour votre émission quotidienne à votre avis. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot à la technique qui était accompagné pour ce travail de Nick Ivanov. Très bonne soirée à toutes et à tous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique.